Bonjour à tous, merci de vous joindre à nous pour cet échange de parole aux auditeurs pour votre magazine du débat citoyen. L'avocat général de la République, Xavier Bilolo, a affirmé que la justice n'est pas à confondre avec les droits publics qui est politique. Ceci pour répondre à ceux qui fustigeaient le retard accusé par la justice dans le traitement de la première dénonciation des détournements de fonds publics envoyés au parquet par les conseillers spéciaux du président de la République chargé de la lutte contre la corruption, le terrorisme et les blanchiments des capitaux. Il a aussi déclaré que la justice a ouvert des enquêtes et que l'instruction restait secrète. Rappelons que dans son dernier rapport, l'ONG International Transparency International a classé la RDC au 147e rang sur 168 pays selon l'indice de corruption. Comment commentez-vous cette actualité? 081-890-6315, c'est le numéro d'appel pour nous joindre en direct dans ces magazines. Mise en onde par Sylvain Matundou, Julie Fezabongonda assure la gestion du standard. Jérôme Ngembo est à la réalisation et la coordination. Et Piero et Lamégie vous le présente sous la supervision de Martin. Les auditeurs, bienvenue à tous.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net. Parole aux auditeurs, Piero et Amélie.
Près de 15 milliards de dollars dus au trésor public sont détournés chaque année en RDC. Ça a été déclaré ainsi par le cabinet du conseiller spécial du président Kabila, chargé de la lutte contre la corruption, le terrorisme et le blanchiment des capitaux. Et en réponse à la première dénonciation de détournement des fonds publics envoyés au parquet, l'avocat général de la République, Xavier Bilolo, a déclaré mercredi que la justice a ouvert des enquêtes et l'instruction reste secrète parce que plusieurs personnes fustigeaient le retard accusé par la justice dans le traitement de cette dénonciation. Et en réagissant bien sûr au rapport de l'ONG Transparency International qui classe la RDC au 147e rang sur 168 pays selon l'indice des corruptions, les conseillers principaux de Luzolobambi, lui-même qui est conseiller spécial du chef de l'État chargé de la lutte contre la corruption, avait déclaré que son cabinet ne disposait pas de moyens pour faire face efficacement contre la corruption. Alors, et l'avocat général a continué dans son intervention pour dire qu'il est plus facile pour un homme politique de faire des déclarations, mais la mise en œuvre d'une telle déclaration lorsqu'elle est confiée aux techniciens demande une procédure, et cette procédure que l'auteur de cette déclaration connaît très bien, puisque c'est un technicien aussi, et la procédure reste secrète. Alors l'idée aujourd'hui, c'est d'arriver à lutter efficacement contre la corruption. Quelles sont vos pistes de solution et comment vous réagissez par rapport à cette actualité? Plusieurs messages ont été déposés sur la page Facebook des Paroles aux auditeurs. Il y a par exemple Clément Chamachanga qui a écrit pour dire ceci: les droits est un. Dans un état des droits, on devrait en principe s'attaquer à tout ceci après que la dénonciation a été déposée, d'une manière à ce que la population comprenne ce qui se passe et que la lutte puisse être plus efficace. Il y a aussi Trésor Likonza de Kinshasa Maître qui dit ceci: la vertu de la justice, c'est la justice elle-même et non sa lenteur. Alors Alexis Lukwela de Kinshasa, lui, estime qu'il serait mieux qu'on ne puisse pas évoquer cette question. On sait qu'on ne peut pas avoir les moyens de dire la vérité à la population autour de qui a détourné autant d'argent et ce qui doit être fait pour mettre tout le monde sur la place publique et lutter efficacement contre la corruption. Voilà autant de réactions sur la page Facebook des Paroles aux auditeurs. Mais nous avons aussi associé à cette émission Rachid Yakida, président de la Ligue congolaise contre la fraude et la corruption. Rachid Yakida, vous êtes avec nous dans cette émission. Bonjour.
Bonjour monsieur Charles.
Voilà, nous allons revenir à vous le temps d'écouter quelques auditeurs qui se sont déjà inscrits pour intervenir, comme Désiré Ketalboubachi dans la province du Haut-Katanga. Désiré, bonjour et bienvenue dans cet échange. Désiré, vous êtes avec nous, bonjour.
Désiré, ça se produit depuis le Lubumbashi.
Voilà, oui, Désiré, on vous écoute.
Vous voyez, en fait, je disais que le procureur général a fait son devoir, celui de rappeler ce qui doit être fait. Hein. Il devait quand même nous dire à quel niveau s'étudient les instructions sur ces dossiers, afin d'apaiser les esprits des Congolais qui attendent impatiemment l'organisation de l'éventuel procès, afin que la responsabilité de tout un chacun soit réellement établie.
Oui, Désiré, pourriez-vous arrêter carrément votre poste récepteur pour nous permettre de communiquer sans beaucoup de difficultés? Vous, vous dites qu'il serait mieux qu'au niveau de la justice, la voie générale aurait communiqué à la population au niveau où se trouveraient les dossiers, mais c'est pourquoi il a dit que l'instruction continue parce que les enquêtes sont tenues secrètes, Désiré. Mais alors, pour vous, comment toutes ces procédures peuvent-elles contribuer à lutter efficacement contre la corruption vu le classement de la RDC dans ce programme de transparence internationale?
Écoutez, en fait, lui, c'est un expert en justice, alors. Il devait réellement dire aux gens que les instructions, sont en cours, mais il devait nous expliquer pour que ce qui sera fait, afin que les gens comprennent et que l'ONG qui a classé la République démocratique du Congo à ce niveau-là, du point de vue corruption, soit quand même apaisé et qu'il se sente que non, il y a quelque chose qui est en train d'être fait en République démocratique du Congo afin de lutter réellement contre la corruption.
Ok, merci beaucoup Désiré. Vous auriez souhaité qu'au niveau de la justice, qu'il y ait une communication claire et transparente pour que la population sache à quel niveau en est-on aujourd'hui avec les dossiers. Et tout ça, ce sont des signaux qui peuvent aussi apaiser les uns et les autres et surtout montrer à ces ONG qui font deux fois des rapports pour que, voilà, il y a quand même quelque chose qui s'est fait en RDC dans la lutte contre la corruption à travers cette dénonciation qui a été envoyée au parti par le conseiller spécial du chef de l'État. Merci beaucoup Désiré Omar, vous êtes ici à Kinshasa. Bonjour et bienvenue.
Bonjour Pierre Lamigé. Merci de peur parce que vous m'avez dit.
Voilà, on vous écoute Omar.
Merci beaucoup Pierrot du verbe que vous m'accordez, je l'ai dit tantôt. Je salue l'action menée par le conseiller spécial du chef de l'État qui a tant cherché puis quand même établir un rapport citant nommément les gens qui ont détourné l'argent, bien que c'est encore une présomption d'innocence. Premièrement, je voudrais réagir à ce que vous avez dit de l'éliminer de votre émission, les propos de l'avocat général. C'est une grande autorité judiciaire avec nous avons beaucoup de respect. Mais lorsqu'on dit que le droit public n'est pas la politique, je n'ai rien compris. Scientifiquement, on doit distinguer le droit politique de la politique, droit public de la politique. Les droits qui soient publics ou privés, ils ne peuvent pas être confondus à la politique. C'était juste une petite précision de taille. Revenons-en à la corruption. Il y a un problème sérieux. Là où je soutiens l'avocat général, c'est pour dire d'abord que l'instruction judiciaire est secrète et il faut que le Congolais quitte la mentalité des rumeurs. Le simple fait d'accuser quelqu'un ou le simple fait de dire que quelqu'un a commis une infraction ne lui rend pas directement coupable. Il faut, après avoir allégué des faits, apporter, n'est-ce pas, des preuves. Et quelqu'un ne peut être coupable que lorsque le juge le déclare ainsi. Il n'y a qu'au Congo, on voit des chaînes de télévision déclarer des gens violeurs, escrocs, coupables, détourneurs, alors que le juge n'a encore rien dit. Il faut que cette mentalité de savoir laisser la justice faire son travail, surtout que des dossiers aussi techniques comme cela exigent beaucoup d'enquêtes. Mais si il faut revenir au problème le plus épineux par rapport à la corruption, il ne peut ignorer en ces jours que c'est vraiment un mot qui gangrène notre économie. Et beaucoup d'efforts ont toujours été initiés, mais là, jusqu'à ce jour, rien n'est encore fait. Il faudra agir, pardon, Pierrot, faire des analyses sociologiques. Qu'est-ce qui fait en ces jours que la corruption, bien que combattue théoriquement, ne puisse pas cesser? Il y a beaucoup de facteurs, il y a beaucoup de mots. Premièrement, c'est l'impunité, surtout des gros poissons. À part le rapport établi par le conseil spécial, il y a eu des rapports de Obama, il y a eu plusieurs rapports des commissions parlementaires. Et lorsqu'il s'agit des gros poissons, lorsqu'il s'agit des personnes ayant des influences politiques, nous avons toujours vu un défi à une certaine état de la justice. Hier, nous avons fait une émission sur la CPI et nous avons dit que la faute n'est pas encore prête à se désengager parce que la justice au niveau interne pose encore problème. Donc, l'impunité aujourd'hui, Pierrot, est l'une des causes qui fait que la corruption continue toujours. Et deuxième chose, il y a un défaut de contrôle. On ne sait pas...
Dommage qu'on a perdu notre ami Omar de Kinshasa, alors qu'il expliquait qu'il y a un dossier technique comme celui-là, il serait mieux qu'on puisse laisser la justice faire son travail, parce que c'est la justice qui doit déclarer qui est coupable, qui est violé, qui a volé. On le voit de temps en temps à travers les chaînes de télévision ici à Kinshasa, où des gens sont arrêtés, présentés ici en public, qu'ils sont coupables de ceci, cela, mais à ce niveau, il faut laisser le travail à la justice. Mais quant au dossier de la lutte contre la corruption, Omar insiste sur la lutte contre l'impunité, parce qu'il estime que ce n'est pas la première fois qu'on parle des dénonciations, des détournements. Il y a eu dans ces pays plusieurs rapports sur les biens mal acquis, les détournements de fonds, il y a eu de différents rapports, on peut en évoquer, la Cour des comptes, le rapport Bakandeja, le rapport le Tundula, il y a eu le rapport déposé sur à la présidence de la République de son temps par Godefroy Mayobo, qui était ministre, puis le Premier ministre. Ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de rapports autour de la question de la corruption, des détournements des fonds, mais il arrive que les choses n'évoluent pas, qu'il n'y a pas des signaux très forts, parce qu'il y a cette question de la lutte contre l'impunité et les dysfonctionnements au niveau de la justice. Merci beaucoup, Omar. 081-890-6315, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct. Rachid Yakida, vous êtes avec nous dans cette émission. Alors, la problématique aujourd'hui, c'est de voir quand même la justice fonctionner d'une manière à donner des garanties et des signaux qui montrent qu'on est quand même engagé dans la voie de la lutte contre la corruption. Alors, à votre niveau, il y a des dénonciations, il y a des procédures au niveau de la justice, il y a des rapports qui fustigent des fois les fonctionnements de la justice, mais aussi ces classements de la RDC. Et vous qui êtes dans ces domaines, comment vous réagissez d'emblée face à toutes ces questions, Rachid Yakida?
Merci, monsieur le journaliste, pour la question. Est-ce que je trouve que l'intérêt que vous portez à la lutte contre la corruption, qui est considéré chez nous comme étant un virus qui gangrène tous les secteurs économiques, politiques, sociaux du Congo, et qui freine justement le développement de notre pays? Vous savez, nous avons toujours lutté contre la corruption, mais malheureusement, nous n'avons jamais été suivis, ni par l'autorité politique, moins encore par la justice, qui devrait, en principe, prendre des mesures drastiques pour pouvoir endiguer ce fléau. Mais malheureusement, la justice se montre complaisante dans cette lutte contre la corruption. Et surtout, vous savez que c'est la justice qui a le moyen le plus fort pour mettre fin à cette pratique honteuse. Mais malheureusement, si vous menez des investigations au niveau de la justice, vous trouvez réellement que c'est là que la corruption se joue. Parce que ce n'est pas seulement le dossier qu'on a dénoncé, mais tout ce qui se pratique au quotidien au niveau de la justice. Il y a les différents dossiers qui sont au niveau des juges, avec certains avocats. Et vous voyez que ceux qui sont complices, ce sont les juges, ce sont les avocats. Et donc, vous trouvez que la justice ne fait aucun effort justement pour lutter contre la corruption. Elle joue le rôle des complices. Donc, pour moi, je trouve que il n'y aura rien qui va avancer tant que la justice ne prendra pas conscience de la tâche qui lui incombe. Parce qu'aujourd'hui, transparence peut être liée. Nous dénonçons tous les jours. Mais vous trouvez que rien ne change et rien ne changera tant que la justice n'a pas encore pris cette conscience. Il y a trop de rapports que nous avons dénoncés ici au niveau du pays. Toutes les ONG qui luttent contre la corruption ont déjà dénoncé. Vous avez cité le rapport Mutendola Makandeja, vous avez cité le rapport Luzolo, mais ce n'est pas le premier rapport de Luzolo, il y en a eu autant de rapports. Mais jusqu'à aujourd'hui, le peuple reste toujours dans le même soif de voir comment évoluer ce dossier au niveau de la justice. Mais quand la justice dit qu'il y a une certaine confidentialité qui doit être préservée, mais nous regrettons parce que quand il y a un dossier qui se passe, s'il y a quelqu'un qui a détourné, la population a besoin de connaître l'issue, n'est-ce pas, de ce dossier. Mm-hmm. Il y a des CDG, des entreprises qui détournent l'argent de l'État. Il y a des ministres qui sont impliqués dans la corruption. Mais le peuple voit tout ça. Mais le peuple a besoin de connaître justement qu'est-ce qu'on a fait
ceux qui ont pillé, qui ont dilapidé l'argent de l'État. Aujourd'hui, le peuple reste concernisé, positionné. Pourquoi? Parce que l'argent n'est pas utilisé. Tout l'argent qui était destiné pour paiement, les salaires des fonctionnaires, les salaires des agents d'entreprise, les soldes des militaires, c'est détourné. Mais la justice devrait se saisir de tous ces dossiers-là. Et même si la justice s'est saisie, mais le résultat est où? Donc, c'est tout ça qui constitue, n'est-ce pas, le problème. Oui. Le problème de la justice, donc nous disons que la justice est en présence, n'est-ce pas, dans le rôle qu'elle devrait jouer pour pouvoir éradiquer la corruption qui gangrène tous les secteurs de notre pays.
Oui, restez bien, mais là, il faudrait quand même qu'on évoque le rôle du politique dans tout ça, mais quand on regarde le rapport et les déclarations de Luzo Lovambi qui avait bien dit qu'il y a 15 milliards de dollars qui échapperaient au trésor public chaque année. Quand on suit les réactions de l'avocat général, je vois bien, il a dit, puisqu'on parle des chiffres en termes des milliards, ils sont logés quelque part. Alors celui qui est informé de ces détournements ne fait plus que ce qu'il a déclaré. Il doit donner d'autres informations. Quelque part, lors de son point de presse, le Premier ministre a évoqué cette question pour dire que un chiffre, 15 milliards de dollars, c'est un chiffre sans fondement. Pensez-vous que dans ces conditions où on ne parvient pas à parler le même langage, que ce soit du côté de la justice et de la politique, on dirait que le Conseil du chef de l'État se retrouve marginalisé et là, ça annule complètement tous les efforts qui peuvent être fournis si au niveau politique on ne parvient pas à s'accorder sur même les chiffres qui sont avancés par celui qui a reçu mandat du chef de l'État pour l'aider dans cette lutte contre la corruption.
Mais quand nous avons toujours dit que la justice est instrumentalisée, les gens n'étaient pas d'accord avec nous, et certains nous taxaient de procès d'intention. Mais nous avons toujours dit que la politique influe beaucoup plus sur la justice. Pas seulement sur la justice, mais sur toutes les institutions qui fonctionnent sur nous, notamment le Parlement, le Sénat et les autres. Donc, principalement la justice. Nous avons toujours dénoncé ça. Que la justice est instrumentalisée. Et les autres institutions sont instrumentalisées par la politique, c'est-à-dire les dirigeants. Or, il y a la loi qui dit que la justice doit être indépendante. Mais aujourd'hui, avec tout ce que nous avons, qui est responsable, n'est-ce pas, d'une institution importante de la République, qui dit que la justice ne joue pas son rôle. Donc, il nous rejoint en nous donnant raison que, effectivement, la justice est instrumentalisée. Et même quand nous remarquons tous les cas d'arrestation arbitraire que nous dénonçons, que les ONG dénoncent, et si certains politiciens restent pour s'arriver là-bas sans que la justice puisse se prononcer, et là, nous avons raison de dire effectivement que la justice de notre pays est instrumentalisée, donc elle n'est pas juste. Donc, pour moi, il y a un adage qui dit que « actoro incumbit probatio », c'est-à-dire la preuve incombe à celui qui accuse. Nous autres devrions aussi donner cette preuve que, effectivement, la justice est instrumentalisée. Donc, pour nous, nous avons toujours donné des preuves pour dire que, écoutez, tel dossier, la justice ne joue pas son rôle, elle est instrumentalisée. C'est comme les dossiers des hommes politiques qui sont arrêtés d'une manière arbitraire à Makala. Là, nous avions donné des preuves. Et qu'il appartient aussi à M. Luzolo, que je respecte bien, de prouver effectivement comment la justice est aujourd'hui n'a pas raison dans tout ce qu'elle est en train de faire. Mais pour nous, nous confirmons, monsieur le journaliste, que la justice ne joue pas son rôle comme il devrait jouer son rôle.
Voilà, donc, on va on revient à vous, le temps d'écouter. Omar, vous étiez en train de présenter votre argumentaire quand la ligne, le contact entre le studio et vous a été perdu. Vous avez évoqué plusieurs rapports, Omar, et vous aurez souhaité vraiment voir la justice faire son travail, lutter contre l'impunité. C'est la voie par excellence pour décourager ceux qui s'élancent dans la corruption. On vous écoute, Omar. En attendant, Maître Dominique est en Boujmaï, on va revenir à lui. Omar, on vous écoute.
Merci beaucoup, Pierrot, de m'avoir réhabilité et mes excuses pour cette erreur indépendante de ma volonté. Je disais donc, Pierrot, la plus grande cause, c'est l'impunité. Il y a eu beaucoup de rapports, beaucoup de dénonciations. Bien que une personne accusée est présumée innocente, il faut que la justice fasse sa part des responsabilités en poursuivant. Mais hélas, il n'y a que de petits peuples qui sont condamnés, mais des proportions. Nous avons un cas patent, un cas éloquent du FPI. des commissions parlementaires ont été instituées. Il y a eu des rapports qui ont dénoncé qu'il y a des détournements. Hein, les mêmes autorités qui gèrent cette institution sont encore là. Il y a aussi un contrat complaisant, JR. Parmi les moyens efficaces pour lutter contre la corruption, il faut qu'il y ait un contrôle de ceux qui gèrent les régies financières et ceux qui gèrent tous les services générateurs d'argent. Et le contrôle peut être politique par les parlements, il peut être technique par la Cour des comptes, il peut également être judiciaire par les juges. Mais qu'est-ce qu'on fait des contrôles? On est expert à des contrôles, mais lorsqu'il y a des rapports négatifs, on ne sait pas sanctionner. Mm-hmm. Et puis, il y a un moyen sérieux, il y a un manque de moyens sérieux. On a créé les services spéciaux de lutte contre la corruption, mais j'ai été écœuré d'apprendre que ce service n'a même pas des moyens. Comment voulez-vous mettre en place des stratégies pour lutter contre la corruption aussi longtemps qu'il n'y a pas assez de moyens? Voilà pourquoi je chute, comme il y a beaucoup d'auditeurs qui doivent intervenir, par le renforcement de l'appareil judiciaire. Et ce renforcement passe par les moyens qu'on doit accorder à ces magistrats, qui ne doivent pas se limiter à travailler, mais qui doivent être bien rémunérés. Parce qu'il n'y a pas de vertu sans le minimum de bien-être. Mais les magistrats aussi, ce n'est pas l'argent qui crée l'indépendance. L'indépendance est un état d'esprit. Il faut que, à part le salaire qu'on leur donne, qu'ils aient une culture démocratique. Et deuxièmement, il faut qu'il y ait la culture des sanctions. Sanctions politiques qui doivent être faites par le Parlement, un ministre détourne. On le démet de ses fonctions, sanctions administratives, comme le Premier ministre l'a fait avec des agents heureux, mais aussi la sanction judiciaire. Dès que l'autorité judiciaire est saisie, elle a comme mission de faire des enquêtes, et dès que les faits sont avérés, elle doit condamner. Parce qu'en psychologie, il est démontré que la sanction a pour but de dissuader les autres et de rétablir le public troublé. Et enfin, nous aussi, Congolais, devons voir la culture judiciaire et démocratique. Ce n'est pas parce qu'on a dit que Pierrot l'a déjà violé, que directement on l'a fait des violeurs. On doit laisser autant la justice de faire son travail et autant aussi de savoir observer et chasser les rumeurs hors du palais. Donc chacun, Pierrot, a sa part de responsabilité. Nous, population qui devons dénoncer et faire confiance à la justice, l'appareil judiciaire qui doit être renforcé et travailler à toute indépendance, et les gouvernements qui doivent cesser de s'immiscer, car nous sommes dans un état démocratique qui veut que les pouvoirs soient séparés. Car la séparation des pouvoirs est un principe sacro-saint en démocratie.
Merci beaucoup, Maître Omar. Vous avez évoqué le cas FPI tout à l'heure. Vous vous rappellerez que lors de notre dernière émission consacrée, bien sûr, à cette question, nous avions eu les députés Emery Okondi qui a insisté sur le fait que la question FPI sera inscrite à l'ordre parmi les matières à traiter à la session du mois de mars prochain. On estime que les députés pourront revenir en plénière pour débattre sur ces rapports. Et vous avez souhaité que voir ce genre de rapport conduire à des sanctions, à des poursuites judiciaires, comme ça a été recommandé dans ces rapports que nous avons exploités dans cette émission. Merci beaucoup, Omar. Maître Dominique, vous êtes en Boujimaï, dans la province du Kassai Oriental. Bonjour, Maître, bienvenue.
Merci bien, Monsieur Pierrot, je crois.
Oui, c'est ça, oui, allez-y.
Ok, merci bien. Monsieur Pierrot, je crois que tous les étudiants de droit, hein, en deuxième graduat, ils parlent de l'indépendance de la magistrature. On leur apprend, on dit que les magistrats, s'il y a une question que l'on pose, magistrat, est-ce qu'il est fonctionnaire ou il ne l'est pas, fonctionnaire de l'État ou pas. Et c'est un débat d'école qui prend tous les étudiants qui sont passés par la faculté de droit. Mais nous sommes arrivés au Congo à nous rendre compte que les magistrats ne sont pas indépendants. Et d'ailleurs, l'article 149 de notre constitution actuelle les rend dépendants de l'exécutif. Remarquez, Pierrot, dans tout ce que l'on appelle conseil de sécurité, où trouvez les magistrats là-bas, dans les conseils de sécurité? Les actions à poser, les magistrats sont là dans les conseils de sécurité. On décide d'arrêter là dans les conseils de sécurité un truc qui n'a même pas de fondement juridique. Mais vous trouvez des magistrats dans ces conseils de sécurité-là. Dites-moi, vous croyez qu'ils sont indépendants? Vous voulez avoir quoi de ces magistrats-là? On leur dicte des histoires dans ces fameux conseils de sécurité partout sur la République démocratique du Congo. Ainsi donc, nous avons des gens qui sont des parleurs essence indépendants, mais eux-mêmes ne veulent pas manifester cette indépendance-là. Vous trouvez des magistrats qui vous portent des chapeaux avec les 100%, 100% sûr, 100% des magistrats, monsieur. Donc, en eux-mêmes, ils n'ont pas l'esprit d'indépendance. Par rapport au dossier de la corruption dont on parle ici, L'avocat général, là, il peut avoir raison dans ce qu'il dit, mais laisse-moi te dire, M. Luzolo Bambi lui a présenté des dossiers, M. Luzolo Bambi a documenté, il n'y a plus problème lui de faire encore des enquêtes, non, Luzolo Bambi lui a fait ses enquêtes, il a eu des résultats, il a pris un document, il est allé déposer là pour accuser. Quitte à la justice maintenant de se prendre en charge et de commencer à agir. Lorsque eux maintenant commencent d'abord par faire des enquêtes, c'est pour nous dire quoi? Y a-t-il eu des simples dénonciations? Y a-t-il eu des simples soupçons? Ou il y a des dossiers documentés? Hein? Voyez-vous un peu à ce niveau-là. Nous avons une crise chez nous au Congo, une crise d'hommes. Nous ne savons pas où nous allons avec des gens comme ça. Regardez en Afrique du Sud, imaginez-vous la justice qui s'attaque au président parce qu'il a laissé partir El Béché. Parce qu'il l'a fait partir, on attaque le président, la justice. Mais chez nous, les magistrats eux-mêmes n'ont pas la notion d'indépendance. C'est ainsi que nous sommes en train de nous dire que la politique, comme l'a dit votre invité, la politique et la justice est politisée, la justice est inféodée, la justice congolaise ne suit que ce que la politique dit, c'est la politique qui dicte tout. Quand il faut arrêter Muyambo, on l'arrête d'abord, sans même preuve, sans qu'il y ait quoi, on le prend d'abord, qu'il soit là, même si on ne le juge pas, il n'y a pas d'abord de preuve. Pourquoi? Parce qu'il est contre le pouvoir. Lorsque les gens parlent du troisième mandat, vous entendez les autorités judiciaires se lever pour dire quiconque en parlera encore, nous l'arrêterons. On commence à menacer des gens. Pendant que c'est constitutionnel, voyez-vous un peu, nous sommes malheureux Congolais, nous sommes malheureux. On se demande dans cette chose, lorsque même on s'attaque à la constitution dans notre pays, vous n'avez pas à dire, M. Pierrot, vous n'avez rien à dire. Voilà un peu le malheur que nous avons d'être nés Congolais.
Voilà, vous estimez pour vous que les destinés Congolais, c'est un malheur. Je ne crois pas que ce soit vraiment un malheur. C'est un problème de volonté, vous l'avez dit, c'est un problème d'hommes, les hommes qui ne voudraient pas vivre l'indépendance de la magistrature. Je ne crois pas que ce soit vraiment un malheur. Je n'ai pas vraiment cette impression-là, que c'est partout ailleurs. Hein. S'il y a des pays, où vous avez donné l'exemple de l'Afrique du Sud, c'est pas un bonheur. Les gens ne vont pas dire qu'ils ont le bonheur d'être nés sud-africains parce qu'ils ont poursuivi les présidents. Et rappelons quand même qu'il y a un dossier où la justice a poursuivi le président Jacob Zuma pour les dépenses supplémentaires dans la réfection de sa résidence. Et il a dû même s'incliner et décider de pouvoir rembourser le trop perçu dans cette dépense. Alors, le problème, c'est un problème d'homme, vous l'avez dit. Mais Omar disait tout à l'heure que l'indépendance, c'est un état d'esprit, c'est pas lié aux conditions de vie ni à l'argent, mais c'est tout simplement un état d'esprit. Si on veut être indépendant, on va être indépendant dans son esprit. Mais votre souci, Maître Dominique, c'est de voir les politiques laisser la justice fonctionner libre d'une manière indépendante et poursuivre qui elle doit poursuivre. Les études de plusieurs observateurs, c'est parce que la dénonciation déposée par le professeur Luzolo Bambi date des 7 mois, les gens estiment quand même que 7 mois, ça devrait peut-être être beaucoup pour qu'on sache qu'est-ce qui s'est passé autour de cette question. Merci beaucoup, Maître Dominique Victor. Vous êtes en Bandangungu, dans le Congo central. Bonjour, Victor, et bienvenue.
Ouais, bonjour à tous les auditeurs de la radio Okapi.
Et quand on écoute les uns et les autres et plusieurs émissions, Victor, que nous avons eues avec vous, surtout autour de la corruption, autour de la justice, on se rend compte que tout le monde dénonce, on dit la même chose depuis plusieurs années, que nous sommes en train de faire des débats autour de ces questions. Mais d'un côté, tous les genres de rapports, nos ONG, que ce soit la LICOCO, que ce soit la LICOP et d'autres, reviennent de temps en temps sur la corruption, l'état de la corruption, les détournements de fonds, les marchés publics, on parle tout ça. Et nous revenons sur la justice qui ne marche pas, on se plaint toujours. Mais dans ces conditions, qu'est-ce qui doit être fait pour accélérer quand même qu'il y ait une décision forte qui montre que quelque part à RDC, il y a des engagements sérieux pour lutter contre la corruption et redonner quand même la confiance aux uns et aux autres qui voudraient bien fréquenter les pays, Victor?
Oui, merci beaucoup. Donc, je pense qu'il y a d'abord l'engagement des citoyens. Ce sont les citoyens qui doivent se débarrasser d'un système corrompu. C'est-à-dire que aujourd'hui, les citoyens peuvent se porter partie civile. Nous avons des juristes un peu partout, des avocats qui sont en chômage, voilà, qui peuvent documenter certains dossiers d'eux-mêmes et pouvoir traduire ces autorités qui ne veulent pas agir en justice. Et la justice ne s'arrête pas seulement au Congo, donc un peu partout dans le monde, il y a des structures au niveau international. J'ai la chance ou la malchance d'avoir participé à des tournées d'information et d'études avec la commission d'éthique et lutte contre la corruption, l'OFEP, aux États-Unis même. Donc mon pays, j'ai été formé à la matière. Et parfois, je regrette quand je vois ce qui se passe dans notre pays. Donc, ce que nous devons faire, ce sont les citoyens qui doivent s'engager. Parce que le système tel qu'il est aujourd'hui dans notre pays, je vous assure qu'il faudrait, excusez-moi, faire d'autres martyrs. Des gens qui doivent dire, je dénonce qu'il soit président, premier ministre ou je ne sais pas, général, je le dénonce et j'accepte de mourir pour mon pays. Donc voilà un peu ce qui se fait ailleurs. En Afrique du Sud, s'ils sont arrivés à cela, c'est parce qu'il y a une société civile dynamique. Il y a des citoyens qui s'engagent. J'ai été plusieurs fois en Afrique du Sud. Je connais comment les Sud-Africains réagissent. Et chez nous, on dit toujours, non, Jean Bakosala, Dieu fera, Dieu fera. Et voilà, c'est pourquoi on est dans ce système. Donc ce sont les citoyens qui doivent arriver à dénoncer même les minimes corruptions au village. Et alors ceux qui sont en ville, ceux qui sont dans des institutions, qui doivent le faire, et sinon le cas échéant, c'est porter partie civile et donc déposer de plainte à la place où c'est Zolobambi qui dépose la plainte, qui fait la dénonciation, mais ce sont les citoyens réellement qui vont avec la plainte, qui déposent une plainte dans une institution et on met le procureur devant un fait accompli. Et ces enquêtes-là, mais il peut y avoir des enquêtes parallèles des citoyens. On peut bien le faire. Et on le fait dans d'autres pays. Pourquoi pas dans notre pays?
Merci, Victor. Vous avez insisté sur le rôle des citoyens de la société civile dans la dénonciation. Vous vous rappellerez, quand nous avons eu le lundi l'émission sur la problématique des manifestations et libertés publiques, ça a été même évoqué, où les auditeurs ont pensé que pourquoi pas aujourd'hui voir les citoyens s'engager, porter plainte contre les autorités, porter plainte contre l'État pour dire voilà, vous ne faites pas évoluer les dossiers tels que nous voulons, alors ils font pression sur la justice. Et dans ces cas, vous estimez que les lignes peuvent bouger, c'est le rôle de la société civile, et vous l'avez vu dans d'autres pays où elle fait pression, elle porte plainte, elle insiste pour que qu'il y ait la vérité et que la lutte contre la corruption soit vraiment effective. Merci beaucoup, Victor. Madame Joséphine, vous êtes à Boston. Merci de nous avoir contacté pour votre intervention dans cette émission. Bonjour et bienvenue.
Bonjour Radio Katia. Merci beaucoup de m'avoir passé la parole. Moi, je vais dire ceci. Au Congo, la justice, comme les autres venaient de dire, la population doit agir. Mais j'ai un exemple typique. Il y a de cela, je crois, 15 ans, qu'on avait acheté une parcelle et on a fait une mise en valeur. La parcelle était 40 sur 20. Maintenant, on a laissé parce qu'il y avait une mise en valeur. Quand on rentre pour construire, le voisin de gauche a déjà pris dans notre parcelle 1 mètre. Le voisin de derrière, il a déjà pris au moins 40 centimètres. L'autre a déjà pris 1,5 mètre. Maintenant, on va au service des cadastres se plaindre. Vous savez ce qu'on nous a dit au service des cadastres? Ils viennent, ils ont mesuré notre parcelle, et puis le monsieur nous dira, oh non, maman, vous savez quoi? Laissez seulement, il ne faut même pas aller en justice, parce que vous pouvez aller en justice et la nuit, vous n'allez même pas commencer à dormir. C'est ça le niveau, c'est ça la confiance que la population congolaise a par rapport à la justice. Donc, il y a tout ça. Il y a le problème de confiance. La population dont vous demandez d'aller en action, la population n'a plus confiance à la justice, tellement qu'il y a eu des abus. Ça, c'est le niveau seulement de justice publique, justice à la cité. Maintenant, si M. Luzolo Bambi a fait tout ce qu'il a fait, il a fait ça. Moi, je me demande aujourd'hui, c'était pour sa publicité ou bien c'était une action vraiment gouvernementale, une action qui devait monter par rapport à la justice congolaise, que nous pouvons aussi appliquer la justice. Moi, j'ai remarqué que le gouvernement congolais est en train de faire des histoires, est en train d'offendre chaque jour la paix, la justice au Congo. Alors, nous demanderons au gouvernement congolais de laisser la justice privée, qu'on n'amène pas la politique dans la justice.
Mm-hmm.
Quand on amène la politique dans la justice, on a les résultats qu'on a maintenant. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Madame Joséphine, parce que vous êtes posé des questions de savoir si l'action menée par le Conseil spécial du chef de l'État était une action gouvernementale. Rappelons quand même, je le disais en début d'émission, que dans son dernier point de presse, le Premier ministre lui-même a pu quand même récuser les chiffres évoqués par le Conseil spécial, 15 milliards de dollars chaque année de détournement des fonds. Il estimait que c'était vraiment assez colossal par rapport à la réalité. Mais c'est dans toutes ces dans toute cette forêt d'informations qu'on voudrait, que vous avez souhaité que la justice soit laissée libre de pouvoir conduire les enquêtes sans problème. 081-890-6315.
Chaque vendredi de 19h15 à 20h, Radio Capé vous propose la tribune de la presse. Analyse, explication et débat autour de l'actualité de la semaine avec les journalistes de la presse écrite et audiovisuelle. La tribune de la presse, vendredi de 19h15 à 20h, un résumé complet de l'actualité de la semaine. Une émission à réécouter sur internet, radiocapé.net.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081-890-6315 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie.
Rachid Yakiza, nous revenons à vous. Quand on essaie de regarder l'historique dans toutes ces questions de dénonciation, de la corruption, de la justice, si vous, on revient dans l'histoire pour lire la lettre des 13 parlementaires, si on regarde les 7 fléaux évoqués par le Marshall, si on regarde la conférence nationale souveraine en passant par San City, nous avons le même problème qui revient dans le débat. C'est la justice a des problèmes, la justice ne parvient pas à travailler comme il faut, c'est un problème de dénonciation. Alors, on dirait que plusieurs années passent, on dénonce de la même manière la corruption, la justice, mais on a tendance à rester à faire du surplace. Est-ce qu'on peut avoir un engagement, comme le disait tout à l'heure notre ami, qu'il faut changer le système pour qu'enfin qu'on voie que hier c'était autre chose, aujourd'hui c'est autre chose, les choses évoluent quand même, et comme ça la population peut avoir confiance à la politique et à la justice, Rachid Yakiza.
Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je crois que tout tourne autour de la volonté politique des dirigeants. Parce que quand vous voyez, c'est vous-même qui disiez qu'en regardant toutes les vicissitudes connues par le passé, et nous tournons en rond. Effectivement, nous sommes en train de tourner en rond. Pourquoi ? Parce que la classe qui dirige n'a pas cette volonté de sortir le pays du bourbier dans lequel ce pays est plongé depuis l'Europe. Pourquoi ? Parce que ceux qui viennent, ils n'ont pas volonté de sortir le pays du gouffre. Ils ont volé, ils ont besoin seulement de remplir leurs poches, de travailler pour leur ventre, et c'est fini. Donc le pays ne les intéresse pas. S'ils voulaient que le pays change, qu'il se développe, ils devraient laisser, n'est-ce pas, la justice indépendante faire son travail normalement. Mais aujourd'hui, c'est l'interventionnisme qui existe. Vous allez au parquet, vous vous souvenez, monsieur, il y a eu quelques traces qui ont été arrêtées à la frontière de Kasumbalès il n'y a pas 3 semaines. Les gens pensaient que c'était X ou Y qui n'était pas accepté par la classe politique à qui ce camion appartenait. Mais ils ont découvert que ce sont les mêmes personnes de Kinshasa, d'ici, qui sont complices dans ces affaires-là. Mais les camions ont été relâchés et ont traversé les frontières. Ils ont traversé le pays, la Zambie, la Tanzanie, ces camions sont partis. Comment voulez-vous, monsieur le journaliste, qu'une autorité provinciale, en la personne du commissaire spécial adjoint, qui s'était déplacé pour arrêter les camions, et il a dit tout haut, au micro, de toute spéciale périphérique locale ici, que ce sont des camions qui traversaient d'une manière frauduleuse. Mais,
comme une baguette magique, on voit ce camion traverser. Et puis on dit que non, non, il y a eu ça, il y a eu ça. Un arrangement, la fraude. Pourquoi? C'est la corruption, monsieur. L'argent a tourné, a circulé, et ce camion s'est parti. Donc, ici, je vous dis tellement que c'est la classe politique congolaise qui ne veut pas que les choses changent. On va dire aujourd'hui, j'ai entendu certains camarades dire que c'est l'engagement des citoyens, que la corruption c'est un état d'esprit. Mais monsieur, les Congolais ont déjà pris la résolution de faire changer les choses. Mais lorsque la justice arrête ceux qui dénoncent, la justice les casse de dénonciations calomnieuses. Vous dénoncez les choses réelles, vérifiables. Parce que je veux dire ici que, à faire un convite probation. C'est-à-dire, la preuve incombe à celui qui est acquis. Nous dénonçons. Nous prouvons avec des preuves tangibles et palpables que voilà, il y a une corruption à cet endroit. Il y a une fraude à cet endroit. Avec des preuves tangibles et palpables. Mais la justice vous dit, non, ce sont des dénonciations calomnieuses. Et on vous arrête de dénoncer. Lorsque les gens manifestent pour qu'il y ait changement d'un système, d'un régime politique, par exemple, parce qu'il y a corruption, aujourd'hui, la richesse du Congo ne profite pas aux Congolais. Mais le peuple est conscient et dénonce ça. Le peuple marche, on arrête, on les tue, on voit tout ça. Mais qu'est-ce que vous voulez que le peuple congolais fasse encore? L'engagement est là, les citoyens. Lorsque le peuple dit que non, pas question d'un troisième mandat, parce que ce n'est pas constitutionnel. On arrête ces gens-là. Vous voulez que les Congolais fassent quoi encore? Parce qu'on les arrête. Vous voyez qu'on va, on a arrêté parce qu'il y a un camarade qui a cité le nom de Muyambo. Il n'est pas seul Muyambo. Il y a les gens de Kiboko, il y a les Christopher qui a arrêté les gens de la société. Il est de la société civile. Il y a Kaviro qui est là-bas. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui se sont engagés. Vous ne pouvez pas demander à l'ensemble de la population de marcher. Il y a toujours eu des leaders qui disent, écoutez, il y a des choses qui proches, il faut que ça change. Mais on dit, on arrête ces gens-là. Et vous voulez quoi encore? Ici, nous vous disons, ici, c'est un engagement personnel. Parce que j'assume, ici, il y a complicité entre les dirigeants et ceux qui travaillent au niveau de la justice. Parce que tous, ils sont nommés, non? Aujourd'hui, on a nommé les gens de la cour constitutionnelle, ils ont sorti des lois que vous avez suivies, décriées par la population, parce que la population a dit, pas question. Mais, c'est appliqué. Et ce que vous voulez que le peuple encore fasse, il y a un manque criant de volonté politique de celui qui est des dirigeants. Donc, pour que les choses changent, nous ne sommes pas encore là. Mais ici, je tiens à clarifier les choses. L'engagement des citoyens existe et là, la société civile travaille, et même les gens politiques travaillent pour que les choses changent. Que la justice change. Non, la justice ne peut pas changer. Pourquoi? Parce que l'interventionnisme de l'homme politique est là. Les moyens coercitifs existent pour réprimer ce qui dénonce. Et donc, voilà, les choses existent là.
C'est important ce que vous avez dit, l'importance de l'engagement de la volonté politique hein, pour arriver à libérer le travail de la justice et vouloir faire changer les choses. Maître Adrien, vous êtes à Kananga, au Kasaï Central. Bonjour et bienvenue.
Oui, bonjour Pierrot. Bonjour à monsieur l'invité. Bonjour à tous les amis auditeurs.
Est-ce que vous avez cette impression que on a tendance à revenir sur les mêmes choses, les mêmes problèmes, les mêmes dénonciations, les mêmes attitudes, ou quand même qu'il y a des lignes qui bougent aujourd'hui dans notre pays d'une manière plus assez efficace pour lutter contre la corruption dans le fonctionnement de la justice? Il faudrait quand même que l'image soit améliorée, maître Adrien.
Oui, Pierrot, j'ai l'impression que nous tournons toujours à rond. Donc, nous revenons sur les mêmes choses, les mêmes dénonciations. Je demanderai d'abord à M. Rachid, qui est notre invité, de dépassionner les débats, donc d'être très calme. Je ne suis pas d'accord avec certaines affirmations qu'il a faites, selon lesquelles il n'y a aucun effort fourni par la justice. Non! La justice, Pierrot, fournit un effort. Moi, je suis dans la justice. Je sais de quoi je parle. La justice fournit un effort, mais cette justice-là est limitée par le moyen. Cette justice-là est butée en difficulté de certaines preuves parce que la justice est habituée à ce genre de dénonciations. Personne, monsieur l'invité, là, Rachid, ici, il peut nous dire au jour d'aujourd'hui
qu'un jour lui-même s'est transporté devant tel juge ou devant tel magistrat avec une preuve palpable que voilà, celui-ci c'est un corrupteur et celui-ci c'est un corrompu et le magistrat a abandonné, a acquitté ces personnes. Vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas ce genre d'affirmation et de preuve. C'est ça la difficulté à laquelle la justice est butée. Pierrot, je voulais vous dire que je fais d'abord mienne l'analyse correcte faite par mon confrère Omar de Kinshasa. L'infraction de corruption, c'est une infraction complexe. Donc, elle n'est pas à confondre aux autres infractions parce que lorsque la corruption se passe, très souvent, c'est dans le noir. Ça ne se fait pas à ciel ouvert pour qu'on dise, non, voilà, j'étais là, ils se sont dit ceci, voilà la caméra. Non, c'est toujours dans le noir et c'est toujours compliqué pour avoir la preuve. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour lutter contre la corruption dans notre pays qui est devenu comme un sport national? Je pense que, premièrement, il faut faire de l'infraction. De la corruption, une infraction spéciale au même titre que l'infraction de violences sexuelles, c'est-à-dire en augmentant la peine. Parce que dans les anciens temps, on voyait comment est-ce que les gens se comportaient pour les viols et autres infractions de violences sexuelles. Mais aujourd'hui, lorsqu'on a pris une loi spéciale, et nous nous rendons compte qu'il y a même les organismes internationaux qui disent que non, il y a réduction des taux donc des violences sexuelles en RDC. Premièrement, c'est ça. Deuxièmement, il faut revoir les traitements des personnes appelées à réprimer cette infraction, donc à dire la justice. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, je vous donne un exemple. Un monsieur cité pour telle infraction, c'est un millionnaire devant un magistrat qui n'a presque rien. Comment voulez-vous que ce magistrat-là puisse dire un vrai droit? Ça ne sera pas possible, mais si ce magistrat-là est mis dans de bonnes conditions, il va se dire, non, chacun dit, moi, j'ai un salaire autant, un salaire décent, il faut que je dise les droits.
Oui, maître Adrien, s'il vous plaît, maître, si on peut se relancer. Vous avez dit qu'il est difficile aujourd'hui que Rachid Yatida nous donne des cas. S'il y a vraiment des cas concrets où il y a eu des preuves, on a amené ça devant les juges et que les juges n'ont pas pu statuer. Mais quand même on revient à ces deux cas majeurs, je prends par exemple la dénonciation déposée en son temps par M. Mayobo, qui était le premier ministre, vous rappellerez, du temps d'Antoine Gizinga. C'était une plainte où il a déposé, bien sûr, au Parlement, il a déposé chez le procureur à la présidence de la République en parlant des 10 milliards de dollars détournés, quand même, c'est en fait des noms de gens. On n'a jamais poursuivi ce dossier. Quand le Zolo Bambi, conseiller spécial du chef de l'État, dépose un dossier avec des noms et des montants qui ont disparu, des surfacturations, des cas comme ça, vous n'allez pas quand même dire qu'on peut récuser ces genres de rapports. Quand l'Assemblée mène un rapport sur une mission d'enquête au Katanga sur les transactions minières, quand il y a par exemple la Ligue congolaise contre la corruption, l'ICOCO, qui sort un rapport sur les trafics au niveau des douanes dans les Katanga partout ailleurs, avec des noms des gens qui sont cités, avec des montants, avec des documents de surfacturation, comme ce qui se passe maintenant, par exemple, avec le FPI, vous n'allez pas quand même dire, à un certain moment, que dans des cas comme ça, ce sont des rapports, des dénonciations qu'on peut mettre en cause pour dire qu'il n'y a pas assez de preuves. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas arriver à ce niveau-là s'ils n'ont pas réuni assez de preuves, maître Adrien.
Merci beaucoup pour m'avoir relancé, mais je vais revenir sur le cas du Conseil spécial des chefs de l'État. Rappelez-vous, il y avait une rumeur, moi j'appelle une rumeur qui circulait, on a cité un certain nombre de gouverneurs, et lorsque les journalistes sont allés auprès de lui, il a décliné ça, il a dit que non, moi je ne fais rien. Et aussi, pour répondre maintenant directement à votre question, vous allez vous rendre compte que c'est là que je suis d'accord maintenant avec l'invité. Le problème se trouve maintenant au niveau du gouvernement, parce que lorsque vous citez tous ces rapports-là, le procureur général de la République est toujours saisi, mais le procureur général de la République est déprimé par l'homme politique congolais. Il ne sait pas faire quoi que ce soit parce que dans tous ces rapports-là, la plupart des personnes citées, ce sont des hauts fonctionnaires ou bien des hauts politiciens de ce pays. Et c'est comme ça que le procureur est vraiment bloqué. Si on libère la justice au niveau du sommet, je pense que ça sera possible. Pour terminer maintenant,
allez-y, rapidement, oui.
Pour terminer, je pense que cette situation est en train de relancer la question. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, c'était d'abord une erreur de substituer la justice par une personne. Une personne n'a pas les pouvoirs. Aujourd'hui, il est revenu pour dire que non, je n'ai pas de moyens. Comment une personne peut être instituée à un conseiller des chefs de l'État en lutte contre la corruption et pourtant, il y a la justice qui est là et a laissé comprendre que non, la justice est relégué au second plan. Et là, la justice n'a pas de force pour lutter contre la corruption.
Merci beaucoup, Maître Adrien. Merci. Professeur Robert, vous êtes ici à Kinshasa. Bonjour, professeur, et bienvenue. Professeur Robert, vous êtes avec nous. Bonjour. Voilà, si la réalisation peut tenter de pouvoir recontacter rapidement professeur Robert, hein, si il peut nous donner son intervention. Il y a plusieurs messages encore sur notre page Facebook qu'on ne saura pas exploiter, mais Patrick Mukendi dit ceci, c'est une réaction erronée pour moi. Je pense que la justice congolaise risque d'être considérée par la population comme une salle de théâtre si on peut publiquement récuser le rapport et une dénonciation déposée par un conseiller spécial du chef de l'État. Il faudrait quand même qu'on soit sûr que ce conseiller ne peut pas déposer une plainte s'il n'a pas réuni assez d'éléments concrets et que cela soit récusé par les politiques. Alors, Denis Mupimbi, fils d'Ekalemi, dit ceci, les principes évoqués par l'avocat général, je crois bien que ça peut rester dans l'usage au niveau des académies, parce qu'ici, en pratique, dans notre pays, ce que nous, la population, voudrait voir, c'est que quand on évoque des cas de détournement, des cas de corruption, que la justice puisse convoquer des personnes qui sont impliquées et qu'il y ait des procès qui s'étiennent et que la population sente qu'il y a cette volonté de pouvoir lutter contre la corruption et les détournements des deniers publics. Clovis Kalolo Dembouchimaï, il y a en justice certains dossiers qui nécessitent une sérénité, une rapidité et une ouverture d'instruction au public, comme les dossiers comme celui des détournements des fonds, parce que c'est l'argent du contribuable congolais, c'est l'argent de la population. On ne veut pas longtemps se tergiverser au niveau des secrets. Il faudrait que ça soit traité avec célérité et que la population soit informée d'où va son argent qui a pu toucher à l'impôt du contribuable congolais. Innocent Armand Kondolé de Kinshasa, l'immixtion de la politique dans les affaires de la justice est visible dans les traitements et surtout dans les dossiers sensibles qui touchent à des gros montants d'argent qui disparaissent et on voit que chaque fois quand on évoque des tels dossiers, les politiques sont mal à l'aise. Nous allons écouter Blanchard qui est à Kinshasa. Dommage qu'on ne saura peut-être pas voir professeur Robert. Blanchard, merci de nous avoir contacté. Vous êtes avec nous. Bonjour et bienvenue.
Allô?
Oui, Blanchard, vous êtes avec nous. On vous écoute rapidement.
Oui, monsieur. En fait, moi, j'étais assistant à l'Assemblée nationale et nous avons vécu une histoire où on alloue au budget de l'État congolais des sommes colossales pour la lutte contre la corruption. Et d'ailleurs, moi, j'avais fait un amendement que j'avais donné à l'honorable qui assistait à l'époque pour pouvoir demander et comment serait utiliser ces fonds-là pour lutter la corruption, contre la corruption. Alors qu'il y avait déjà un ministère appelé ministère des nouvelles citoyennetés, à qui on a loué aussi d'autres fonds qui, d'une manière ou d'autre, pouvaient contribuer aussi à lutter contre la corruption. Vous voyez d'une part des fonds alloués contre la corruption, d'autre part, tout un ministère, mais qui en réalité ne présente pas un bilan pour les actions menées antérieurement. Donc, on constate seulement des fonds alloués, mais pas de changements. Pas de changements sur le plan. Alors, nous avions plutôt demandé, par exemple, que ces fonds-là soient alloués au secteur des microfinances. Parce qu'aujourd'hui, avec des difficultés des jeunes universitaires de pouvoir trouver l'emploi, avec les secteurs de microfinance, on trouverait des entreprises qui auraient des petits crédits et avec ces crédits, on créerait d'autres emplois. Donc, quand on alloue maintenant assez d'argent pour lutter contre la corruption, alors qu'en réalité, sur terrain, il n'y a pas des actions qui sont menées contre la corruption. Donc, c'est l'État congolais qui lui-même entretient justement cette corruption et n'essaie pas de lutter suffisamment contre la corruption.
Mmh, voilà,
je m'allie vraiment à tout ce qu'on dit le prédicateur. On ne sent pas les sanctions, tout part des sanctions. Regardez un enseignant de l'école primaire qui pignait un élève pour avoir dérangé. Mais après, quelques minutes après, l'élève ne dérange pas. Mais si un ministre qui va s'engager à bouffer une grosse somme d'argent et il n'est pas puni, et demain on apprend un ADG qui a fait la même chose, et la simple sanction c'est de le mettre de côté. Et on ne poursuit pas, on ne demande pas
de la rembourser. Blanchard, dommage, on ne saura pas aller plus loin parce qu'il faudrait que l'invité puisse conclure. Mais ce que vous avez dit, c'est important. Là, on a suivi le conseil spécial qui a dit, bon, écoutez, moi, je vais lutter contre la corruption, mais voilà, dans mon cabinet, je n'ai pas assez de moyens conséquents pour lutter contre la corruption. Et vous avez été assistant à l'Assemblée nationale. Des fonds sont alloués dans le budget pour lutter contre la corruption. Faudrait-il savoir ces fonds sont alloués à quel service qui efficacement fait ce travail. Merci aux uns et aux autres. On revient à vous. Rachid Yakida, en une minute là, pour conclure cet échange avec les auditeurs.
Merci beaucoup. Pour trouver des solutions adéquates dans la lutte contre la corruption qui est devenue endémique, il est indispensable que la justice poursuive de manière indistincte pour tous les corrupteurs.
Mmh.
Poursuivre ces corrupteurs, les sanctionner. Et ça, c'est une chose. Deuxième chose, il faut que les dirigeants puissent exprimer leur volonté de laisser cet appareil judiciaire
Merci.
Indépendant.
Merci.
Dans le cas contraire, on va tourner toujours en rond.
Merci beaucoup, Rachid Yakida. Vous êtes le président de la Ligue congolaise de la lutte contre la fraude et la corruption. Merci de nous avoir accordé de votre temps dans ces magazines. Et merci aux auditeurs. Vous avez été très nombreux sur Internet aussi également à commenter ces sujets autour de la lutte contre la corruption.
Allô? Allô? Qui ne répond pas?
Merci à toute l'équipe qui nous a aidé à produire ces magazines. Sylvain Matundou était la mise en onde. Julie Pézabongonda a assuré la gestion du standard. Jérôme Guimbo était à la réalisation et la coordination. Pierre Oulamé, vous l'a présenté sous la supervision de Martin Sébouzang. Parole aux auditeurs. Restez sur www.radiocapi.net. Merci à tous et au revoir. Thank you.